Tout le monde était là lundi soir? Ah non? Bien, bon, au fur et à mesure de l'étude, je donnerai les indications nécessaires. Alors, vous allez prendre un verset en attendant que les photocopies arrivent.
Ça devrait se préparer rapidement.
D'accord, dès que c'est prêt, tu les apportes. Vous les apportez. Alors, prenez au chapitre 14 de la Genèse. Je vais vous dire quel est le verset, ça va être. Alors, je vais rappeler brièvement le contexte dans lequel nous avons pour la première fois le terme de hébreu à propos d'Abraham, qui est encore nommé Abraham. Le changement de nom n'a pas encore eu lieu. Et nous allons étudier aujourd'hui, avec un texte de Gomara, la signification de ce changement de nom, d'après le thème que nous avons étudié lundi soir, c'est-à-dire le passage de l'identité humaine à l'échelle de l'universel, comme reconstruction, tentative, histoire de reconstitution de l'identité de l'homme universel détruite à Babel. Vous vous rappelez de cela pour ceux qui ont suivi l'analyse lundi soir. Alors je reprendrai pour les autres ponctuellement chaque fois que la nécessité s'en fera ressentir. Alors le contexte est le suivant. On a déjà appris que la famille des Hébreux qui se trouvait en exil en Mésopotamie, à Ur Kasdim, est rentré d'exil, et dans cette famille, il y a en particulier Abraham et Lot. Nous suivrons assez rapidement les péripéties de la séparation entre Lot et Abraham, et tout le programme d'identité qui est impliqué. Ceci est un sujet pour lui-même. Et lorsque la séparation a eu lieu, Lot a choisi de s'installer à Sodome et Gomorre, et Sodome et Gomorre a été pris dans une guerre entre quatre et cinq rois, dont parle la Torah dans tout ce contexte, et Lot a été fait prisonnier. Et on va s'apercevoir que Abraham, qui s'était séparé de lui, qui était resté dans le pays du Canaan, dans la partie du pays de Canaan qui va devenir Eretz Israël. Sodome et Gomorre, ça fait aussi partie d'Eretz Israël, c'est un autre problème. Mais je veux dire, à ce niveau du récit, Eretz Canaan, c'est toute la partie qui est du côté de la côte. Alors que Lot, séparé d'Abraham, a choisi de s'installer dans la vallée de Sodome et de Gomorre. Alors, j'embraye directement sur le verset, « Vayabo Rapalit » et est venu un rescapé de cette guerre, de ces batailles, « Vayaged le Abraham à Ivri » et il raconta à Abraham l'hébreu, « Vehu shochen beloné Mamré » alors qu'Abraham l'hébreu résidait dans la plaine de Mamré, « Haemori l'amoréen, Achi Eshkol ve Achi Aner » ce Mamré est le frère, c'est-à-dire le Baal Brit, en alliance avec Eshkol et Aner, Vehem Baal Brit Abraham, qui étaient les alliés d'Abraham. Baishma Abraham, Kinishba Achiv, la suite, et Abraham entendit que son frère avait été fait prisonnier. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur les circonstances de la périphérie historique. Mais ce que nous allons étudier, c'est l'identification d'Abraham en tant qu'hébreu. Alors je vais en profiter pour vous donner toute une série de références concernant cette identification de la famille d'Israël dès l'origine, au stade de l'histoire des patriarches, comme étant des hébreux. Première remarque, je vais être obligé de rappeler des choses qui vous sont familières si vous avez suivi ces études. Première remarque, vous avez dû remarquer de façon systématique, je l'ai remarqué encore hier soir, à quel point les historiens, et des historiens sérieux, des sociologues, des théologiens, emploient de façon anachronique le terme de juif ou d'hébreu sans aucune perspective historique sérieuse. ça me prendrait trop de temps de vous faire une analyse un peu exhaustive du problème. Je vais aller à l'essentiel. On emploie trop souvent le terme de juif lorsqu'on parle de la période hébraïque de l'histoire d'Israël. L'identité juive n'apparaît que très tardivement, à la fin de la période hébraïque, à partir du moment de la destruction du premier temple, et surtout à partir du moment de la destruction du deuxième temple, il y a les juifs. Est-ce que... je suppose que vous avez peut-être réfléchi à cette question. Et je vais donc la schématiser. Depuis le commencement de l'histoire d'Israël jusqu'à la fin de la période premier temple et deuxième temple, il ne s'agit pas du tout du peuple juif. Il s'agit de la nation hébraïque. Les juifs sont les judéens rescapés de la destruction du royaume d'Israël, et les judéens de l'exil ont fini par prendre le nom de juifs. Il y a une différence d'identité entre ce même Israël, différence, disons, d'indice d'identité, entre ce même Israël de la période biblique, c'est la nation hébraïque, et d'autre part, le peuple juif qui en est, je dis tout à l'heure, les rescapés, mais les héritiers, et qui sont les Hébreux de l'exil. La charnière de dénomination, c'est le terme de judéen. Je crois que je l'ai signalé suffisamment de fois. Je voudrais refermer rapidement cette parenthèse. C'est un problème important dans le temps contemporain pour le schéma suivant. Tout se passe comme si, il y a 2000 ans, au commencement de la grande dispersion, qui est le résultat de la destruction du premier et puis du deuxième royaume de Juda, les Hébreux sont devenus des Juifs, c'est-à-dire d'une nation vivant sur sa terre. Ils sont devenus un peuple dispersé, rester fidèles à leur projet d'identité, avec tous les avatars que cela a pu représenter à travers 2000 ans et plus, et jusqu'à nous, en une sorte de très longue parenthèse d'identité de survie, qui est l'identité juive, rattachée du point de vue du passé par la nostalgie de l'identité hébraïque détruite par Rome en fin de compte, et du point de vue de l'avenir par l'espérance de la restauration de l'identité hébraïque dans l'avenir qu'on a appelé dans la tradition juive la plus traditionnelle le messianisme et qui est devenu au niveau des comportements politiques dans le temps contemporain le sionisme. Et vous connaissez toutes les problématiques que l'on vous cite dans toutes ces analyses à ce sujet. Nous sommes dans les contemporains d'une mutation de restauration de l'identité hébraïque, d'où les remous de tous ordres qu'il y a dans la société juive et dans l'universel humain concernant Israël. Ce schéma me semble suffisamment clair pour nous servir de clé pour la suite des analyses. Il y a 2000 ans, l'hébreu est devenu juif. De notre temps, le juif redevient hébreu et il s'agit de la nation d'Israël. Est-ce que c'est bien clair? C'est cela qui déclenche, qui résume et qui récapitule, qui rend compte de tous les problèmes qui s'énumèrent autour de l'identité juive contemporaine. Ken.
Pourquoi pour arriver à cette identité qui succède à l'identité du Hébreu, pourquoi est-ce qu'il a fallu passer par l'élimination d'une tribu
du Nord? Bon, c'est pas qu'il a fallu, il n'y a pas de finalité là, c'est pas qu'il a fallu passer par là. L'identité juive, c'est le résultat de cette catastrophe, de la destruction de la nation hébraïque. Comme nous sommes des juifs, les Israéliens qui parlent de ces problèmes de cette manière se définissent comme d'origine juive, avec tous les problèmes que cela comporte. Mais je parle en tant que juif, nous sommes tellement familiers, parce que 2000 ans, c'est très long, à cette identité très spécifique que je suis en train de définir comme étant l'identité juive, et nous croyons que c'est l'identité normale de ce peuple d'Israël dont parle le récit biblique, qui est notre carte d'identité. Or, l'identité normale de ce peuple, c'est l'identité hébraïque. L'identité juive, c'est une identité de survie. Elle a duré tellement, il y a une stratégie de survie de l'identité hébraïque dans sa forme juive, je vais reprendre la description, et nous avons été tellement habitués, familiers, 2000 ans, c'est très long, ce qui fait que la loi de l'inertie, de l'habitude et de l'épaisseur de durée fait que ce qui a été vécu à travers deux fois 10 siècles comme une identité difficile, héroïque d'ailleurs, mais anormale de survie, la plupart du temps, dans le regard des Goyim, c'était une identité de sursis, ça a été vécu par les Juifs à la fois comme survie et comme sursis, que nous avons fini par croire que notre manière naturelle d'exister, nous, Israël, dont parle la Bible et qui traverse l'histoire, c'est l'identité juive. Ce qu'il faut restituer, et si l'on passe les 4 ou 5 ou 6 cours qui nous restent, rien que pour restituer l'évidence de l'identité hébraïque, sans voir autre chose, ça vaudra la peine, c'est que la Bible ne parle pas des Juifs, elle parle des Hébreux. Attendez, laissez-moi finir l'analyse. Okay. Les Hébreux sont devenus des Juifs à la suite d'une catastrophe, la destruction de la nation hébraïque, d'abord une première fois par Babylone, par la civilisation babylonienne. Le résultat en a été premièrement la destruction de l'ancien royaume d'Israël, des 9 tribus et demie qu'on appelle les 10 tribus, puis quelques générations après, pas beaucoup, la destruction du premier royaume de Juda, les premiers judéens du premier royaume de Juda, le Beit Rishon. Ensuite, la destruction du deuxième royaume de Juda. Alors le mot de juif, étymologiquement, ça signifie judéen. Et vous avez le témoignage des autres langues, on ne dit pas juif sans le D, mais on dit judío en espagnol, ou juden, je ne sais pas comment on dit en allemand, c'est une langue que je n'ai jamais voulu apprendre, mais le D est resté, etc. etc. Et le mot de judaïka me revient en mémoire, radio communauté judaïque juive, je ne sais pas quoi, et on est obligé de remettre ce D de judéen lorsqu'on veut parler de choses juives sérieuses. Donc, et les judéens, c'était les derniers des Hébreux. Et la dimension de survie dont ils héritent dans leur expérience messianique nationale, préalable à l'expérience messianique universelle, c'est-à-dire la restauration de la nation hébraïque, c'est le premier point de la messianité de la conscience juive qui hérite, au moment de la catastrophe de la grande dispersion, de cette messianité de restauration de la nation hébraïque pour commencer le temps de la messianité universelle. Est-ce que c'est suffisamment clair, okay? C'est au moment de la destruction du royaume d'Israël que les juifs, les judéens, c'est-à-dire les juifs, ont ajouté à la messianité biblique universelle le préalable de la messianité juive de la restauration de la nation hébraïque. Ça vous éclairera peut-être énormément de problèmes d'ailleurs. Et la différence d'identité, c'est que la nation hébraïque, c'est une identité sui generis simple à définir. Elle n'est pas simple à vivre. Tout le récit biblique, surtout la Torah, nous raconte la difficulté d'être hébreu. C'est à l'échelle de l'universel et c'est interpellé par l'universel dès l'origine et jusqu'à nous. Mais puisque je tiens à rester dans cette analyse dans le cadre de notre sujet de séminaire, okay, Israël et l'universel humain, mais c'est une nation, c'est une identité simple à définir. La familiarité avec l'étude de la Bible, et même malheureusement dans beaucoup de milieux juifs, même traditionnels, on ne sait pas lire la Bible parce qu'on ne la lit pas, okay, on ne l'étudie pas. C'est que la Bible parle de cette nation des Hébreux. On va commencer au commencement. C'est la première fois que ce mot apparaît là. Okay. Et un Hébreu se connaît comme un Hébreu, un point. Je vais répéter les images qui me reviennent à l'esprit chaque fois dans les mêmes formules. Elles ont fait leur preuve. Un Hébreu, même en voyage, c'est un Hébreu en voyage. Un Hébreu, même parlant une langue étrangère, c'est mon cas avec vous, c'est un Hébreu qui parle une langue étrangère. Ça peut vous paraître paradoxal que je vous dise ça en français. Pour nous, ici, le français est une langue étrangère. Et est-ce que c'est clair, Ken? Et enrichi par cette langue étrangère, par cette culture qu'elle véhicule, mais perçu comme un enrichissement venu de l'étranger. Et le juif a oublié cela à la longue. Mais si vous renseignez en scène historiographie juive, de 2000 ans, la conscience juive partout et à travers tous les temps, je veux dire dans cette grande parenthèse entre les deux temps hébreux, l'hébreu du temps biblique et l'hébreu qui commence avec nous, l'identité hébraïque qui commence avec nous, avec la nation d'Israël, qui recommence de notre temps, eh bien, la conscience juive s'est toujours connue dans une parenthèse d'identité entre deux temps hébraïques. Le premier temps, c'était la nostalgie de la mémoire de l'identité hébraïque perdue, nous n'avons jamais cessé de prier en hébreu. Et même quand on priait dans une autre langue, c'était de l'hébreu. Et l'exigence de la restauration de la nation hébraïque. Ça a duré si longtemps que toutes ces exigences simples, de la messianité simple, de la conscience juive simple, ça s'est mythifié. D'où les problèmes que nous rencontrons dans le temps contemporain. Bon, ceci, je crois que ces analyses, nous les avons déjà eues lundi soir. Okay? Si ce n'est pas suffisamment clair, je reprendrai tel ou tel point. Mais voilà ce que je vais ajouter. C'est que l'identité hébraïque est une identité simple. Dans le sens aristotélicien du terme, substance simple. Difficile à vivre, mais simple à définir. Alors que l'identité juive est une identité impossible à définir, parce que c'est une identité mixte. Quand on veut définir un juif, quel juif allons-nous définir? Le judéo-perse, c'est comme ça que ça a commencé. Le judéo-marocain, le judéo-allemand, le judéo-alsacien, le judéo-yéménite, le judéo-hongrois. Il n'y a pas de juif à l'état pur. Il y a toujours un judéo quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est bien clair? Et cette identité que nous avons assumée dans les stratégies de la survie de l'exil redevient de notre temps l'identité hébraïque dans les remous sociologiques, idéologiques, philosophiques, politiques, religieux dans la société israélienne et les impacts que ça a dans la société juive. Vous en avez eu un petit échantillon hier soir pour ceux qui ont suivi le très difficile sujet qui je suppose est resté obscur pour la plupart, parce qu'il faut vivre ces convulsions de l'engendrement, du réengendrement de l'identité hébraïque, du dedans, du rassemblement des identités juives qui se sont rassemblées en Israël pour comprendre les nuances de ce qui a été dit hier soir. Est-ce que c'est clair? Top. Voilà, très rapidement, parce que nous avons tout un programme.
Il y a une chose étrange, c'est que quand un journaliste rencontre des victoires de Tzahar, l'armée est brûlée.
Oui.
C'est qui l'armée hébreu? Surtout le Figaro. C'est celui qui emploie le plus souvent l'expression l'armée hébreu.
L'État hébreu, oui.
Et l'État hébreu et l'armée hébreu.
Alors écoutez, très rapidement, parce que nous avons beaucoup de travail, Ken.
Il y a un clin occulte du destin, parce que la nation d'Israël rassemblée actuellement depuis 48 est pris le nom d'Israël et non pas l'autre. Est-ce que c'est un plébiscite de Jacob en remontant de plus loin, ou bien pourquoi pas
C'est une indication extrêmement positive que vous donnez là. Si nous avons le temps, nous allons la retrouver dans nos références de tout à l'heure. Si vous voulez, on laisse ça en suspens jusqu'à tout à l'heure. Il y a eu une perplexité dans le bureau de l'agence juive en 48, enfin ça a duré quelques mois, comment appeler cet État. Il y a eu plusieurs propositions. D'abord, on voulait l'appeler Herzliya, en hommage à Herzl. Finalement, il y a une ville, il y a une ville qui s'appelle Herzliya. On voulait l'appeler la Judée, pour reprendre l'ancien nom des royaumes de Juda, et faire pièce au geste des Romains, qui, lorsqu'ils ont détruit la Judée, l'ont appelée la Palestine, du nom de la Philistée, nom qu'ont repris les Britanniques pour la province sud de la Syrie, et nom qui a l'avatar qu'il a aujourd'hui. Je vous ai parlé un peu du fait que, pendant l'exil, c'était les Juifs qui étaient désignés comme étant les Palestiniens, et maintenant, c'est les Philistins qui sont appelés Palestiniens. Bon, c'est un autre problème. C'est plus qu'un humour de l'histoire. Il faut avoir une lucidité face à la mémoire de cette histoire. Jusqu'à l'existence de l'État d'Israël, en tant que juif de l'exil, je me connaissais et j'étais désigné par les non-juifs comme un juif de Palestine. Je vous ai raconté cette anecdote peut-être lundi soir, je vais la rappeler. Vous allez voir jusqu'où ça va. Je me souviens quand j'étais au lycée français en Algérie, et il arrivait que des juifs étaient premiers de la classe, ça arrivait assez souvent, je dois vous dire. Il y avait une émeute anti-juive, on entendait une rumeur dans la classe, les juifs en Palestine. Et on arrive en Palestine, on dit « Ah non, minute, c'est pas chez vous, allez voir ailleurs. Okay. » Voyez le drame d'identité. Mais ce que je veux indiquer, c'est que l'identité juive s'est toujours connue dans sa sincérité traditionnelle, dans son honnêteté historique, comme une identité provisoire, entre deux temps hébreux. Alors, s'il n'y a que cela à redécouvrir dans ces études, ça vaut la peine, nous allons le voir dans le texte. l'identité Israël a d'abord été hébraïque. Elle est devenue judéenne lorsque le royaume du Nord, vous vous rappelez du schisme après le temps du roi Salomon, le royaume du Nord avec pour capitale Samarie, avait gardé le nom de la maison d'Israël. Elle a été détruite la première par les Babyloniens. Le royaume du Sud, avec pour capitale Jérusalem et fidèle à la Torah, avait le nom de Juda, parce que la tribu de Juda était la dominante parmi les deux tribus ennemies du royaume du Sud. Le royaume du Sud groupait la tribu de Juda, de Benjamin et la moitié de la tribu de Manassé, une partie des Lévites, puisque la tribu de Lévi était distribuée entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et comme l'identité de la tribu de Juda était la plus forte, alors le royaume de Juda a pris le nom de Juda, par définition. Et les Juifs sont les Judéens de l'exil. Alors, l'indication que je voulais donner est importante, c'est que l'identité hébraïque est une identité sui generis, et c'est une identité nationale. C'est une nation qui a sa propre religion, la loi de Moïse, sa propre tradition, la tradition des patriarches et des prophètes, sa propre conception du monde à travers l'hébreu, sa propre culture, et cette nation, cette identité a été détruite en fin de compte il y a 2000 ans par Rome, d'où l'histoire juive. Est-ce que c'est clair? Et alors, comme nous, encore une fois, comme nous sommes dans un temps, une mutation d'identité corollaire de celle qui a eu lieu à partir d'il y a 2000 ans se produit, nous sommes en plein désarroi. Alors pour retrouver les idées claires, eh bien, nous allons lire le texte. La première identité d'Abraham, elle est déclarée hébraïque par le texte dès l'origine. Alors aujourd'hui, nous allons être occupés à la distinction entre l'identité hébraïque et l'identité araméenne. Bien, alors vous notez que le nom de Abraham est le nom araméen, et cependant le texte nomme Abraham, Abraham ha-ivri, Abraham l'hébreu. Alors que signifie cet adjectif hébreu pour parler d'Abraham qui vient de Mésopotamie? Il me semble que j'ai fait allusion à cela assez en détail au début de la conférence de lundi, mais je m'aperçois que certains d'entre vous n'y étaient pas. Donc je vais reprendre cette étude. Alors, vous allez prendre dans votre texte, beaucoup plus haut, au chapitre 11, on va prendre à partir du verset 27. Alors, prenez donc le chapitre 11, verset 27. Est-ce que, je ne sais pas, qui avait l'exemplaire du Bereshit traduit avec Rashi qui appartient au centre et que j'ai prêté hier? Ça a été restitué? Comment? Elle n'est pas là, mais ça a été restitué. Tu peux avoir au bureau chez Rafi s'il se trouve. Bien. Voilà. À la fin des généalogies de la lignée de Shem, les Sémites, issus de Noar, apparaît l'identification de la famille d'Abraham, dont le père, le chef de famille, est Terah en hébreu, qu'on appelle Taré en français. Et voici ce que dit le texte. Alors nous le prenons à partir du chapitre 27. Alors je lis directement sur l'hébreu, suivez sur votre livre. Ve'ele toldot Terah, et voici les engendrements de Terah. Terah holid et Abraham. Terah a engendré Abraham. Et Nahor, Nahor bet Haran. Et Haran. Donc Terah avait trois fils. Abraham, Nahor, Haran. Ve'haran holid et Lot. Et Haran a engendré Lot. Verset 25. Vayamot Haran al pene Terah. Et Haran est mort, littéralement, à côté de Terah, devant Terah, en présence de Terah. Je reprendrai la signification de cela. Pour le moment, nous suivons les identités. Alors, si vous allez vous faire un schéma, Terah est descendant de Hever, descendant de Shem. Et le nom d'identité hébreu signifie d'abord les descendants de Hever. Un des descendants de Shem s'appelle Hever. Aïn, Beth Resh. C'est le nom d'une manière d'être homme dans la généalogie de Shem. Parmi les sémites, il y avait une manière d'être sémite qui était hébreu. Parmi les descendants postérieurs de Heber, il y a Terah. Et donc, l'identité hébraïque est bien antérieure à Abraham, puisqu'ils sont des descendants de Heber. Est-ce que l'indication est claire? Quelle? Alors, vous allez retrouver le nom de Heber, je vous dirai à quelle génération. Et c'est le premier verset 14. Et Shelah vécut 30 ans et enfanta Heber. Heber, lui, a enfanté Peleg. Et Peleg, c'est le descendant de Shem, Peleg, fils de Heber, à la génération qui se nomme Dora Palaga, la génération de la dispersion de la tour de Babel. Oui. Donc, dans la génération de la dispersion de la tour de Babel, où s'est perdue l'unité de l'universel humain, un hébreu du nom de Peleg, qui donne son nom à la génération. Peleg, ça signifie dispersion, Pelaga. Ce terme a donné en hébreu moderne, Miflaga, un parti. C'est la même racine. D'ailleurs, il y a des familles, mais ça c'est l'humour du yiddish, qui s'appellent Fleg. Vous voyez comment? Oui. Et je crois que la diminution de Fleg bombe, moi je suis au casé. Mais... Une minute, je vois que j'ai un rhume hébraïque. Il était particulière. Dans les généalogies des sémites, à partir de Shem, qui se nomme l'identité hébraïque. Les descendants de Heber, finalement, s'assimilent dans la civilisation mésopotamienne, où ils étaient situés comme communauté hébraïque en fonction de l'identité hébraïque, avant la lettre. Et je vous donnerai encore une autre référence qui montre que même dans les générations d'avant le déluge, la Torah nous donne ce schéma. Que dans la civilisation humaine universelle, il y a toujours une société qui joue le rôle, ceci est pré-futuriste, qui joue le rôle qui est censé être, à partir du Sinaï, le rôle d'Israël, comme Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, c'est-à-dire société de prêtres et nation sainte pour l'humanité tout entière. Alors, on va se poser la question très simple. Que faisaient les Hébreux en Mésopotamie? C'était pas chez eux. Chez eux, c'était le pays occupé par les Cananéens et qui faisait partie de l'héritage de la lignée de Shem. Nous avons toutes les références précises à ce sujet. Il y a eu un peu allusion dans le Rashi qu'on a étudié hier au début, mais je n'ai pas trop analysé en détail cette question. Si c'est nécessaire, j'y reviendrai. Nous allons être occupés ce matin à ces références-là. Dans le contexte culturel de ce temps-là, tout le monde sait que ce pays de Canaan, c'est le pays des Hébreux, et que les Hébreux sont exilés, en exil, pas exilés, dans la civilisation d'Urkazim. On va se demander qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas. Et au moment où la famille de Terah va décider de décrocher de cette dispersion, de cette diaspora d'Urkazim, eh bien, nous allons voir, nous allons suivre le récit, la famille de Terah rentre chez elle sans avoir reçu aucune révélation où est chez elle. C'est-à-dire les Hébreux de la famille de Terah, décidant de quitter la civilisation concentrationnaire de Nimrod de Babel, rentrent chez eux au pays de Canaan en sachant où est chez eux. Ils savent où ils vont, ils rentrent chez eux. Nous allons le voir dans le texte. Okay. Voilà, alors je reprends donc. La descendance de Heber aboutit finalement assez rapidement à Terah. Je reprends à partir du verset 28. Bayamot Haran alpene Terah habib veres molato dans le pays de sa naissance. Beurkazim, à Urkazim. On a l'habitude de traduire Moledet par patrie. Et c'est un sens indéniable que ce mot a dans l'hébreu moderne. C'est un sens dérivé de Moledet, c'est l'endroit où on est né. Et finalement, ça traduit à peu près en français le terme de patrie. Mais vous voyez qu'il faut distinguer les notions, les catégories. La terre où on est né, le pays où on est né, c'est pas forcément la patrie. Ça peut être le pays d'exil où on est né, c'est-à-dire juste le contraire. Okay? Et c'est ce que dit le texte. Il est mort à Ur-Kasdim, qui était Eretz Molatto. Alors si on traduit, il est mort à Ur-Kasdim, qui était sa patrie, on fait d'un hébreu un irakien, en termes géographiques contemporains. Okay? Est-ce que c'est clair? Mais la famille d'Abraham n'a jamais été irakienne, enfin mésopotamienne. C'était une famille d'hébreux en exil à Ur-Kasdim. Je reviendrai sur la fonction, qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Et indication importante que nous allons apprendre de toutes ces références, l'hébreu, dans la civilisation babylonienne, finit par devenir araméen. De la même manière, je vais vous donner une analogie qui est peut-être un petit peu polémique, mais j'ai peut-être cité. Déjà, de la même manière que l'hébreu, dans la civilisation romaine, c'est un juif. De la même manière, l'hébreu, dans la civilisation mésopotamienne, c'est un araméen. Il y a un parallèle entre l'identité araméenne par rapport à l'identité hébraïque et l'identité juive par rapport à l'identité hébraïque. Alors on sait très bien qu'un juif c'est un hébreu, mais on sait très bien que c'est pas exactement la même chose. Vous voyez que cette identité Israël a au minimum trois indices d'identité, l'identité hébraïque, l'identité juive, l'identité israélienne, tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est la même chose, mais que c'est pas la même chose. Est-ce que c'est clair?
Originaire, oui, de ce qui est l'Irak aujourd'hui. Alors, d'où venait-il ?
Eh bien, c'est tout le contraire. C'est ce qu'on est en train d'étudier minutieusement. Parce que nous, les petits juifs du Talmud Torah, nous savions ça à l'âge de 4 ans. Et il nous a fallu des dizaines d'années pour nous rendre compte avec stupéfaction que le monde entier croyait qu'Abraham était un Irakien, devenu hébreu magiquement, converti au judaïsme qui n'existait pas à l'époque. C'était quoi ? Par magie ? Subitement, Abraham devient juif. Ça n'existe pas. Abraham est un hébreu qui était devenu araméen en Mésopotamie. Lorsque la civilisation mésopotamienne devient la civilisation de Nimrod, les fours crématoires de Ur-Kasdim, la famille de Terah, tout cela est raconté dans le Midrash, la famille de Terah décide de décrocher, c'est des rescapés de la Shoah de ce temps, et rentre chez elle.
Le lieu géographique.
C'est la Mésopotamie. Babel de l'Antiquité, c'est l'Irak actuel.
Ah oui, donc ils étaient quand même originaires géographiquement. Voilà. Tout en n'étant pas.
Absolument. Par exemple, je vais raconter cette cassette-là, je demanderai qu'on la duplicate pas, parce que j'ai l'impression que ça va être une étude à bateau rompu, et pas vraiment une étude. Hein, vous la laisserez de côté. Ceux qui l'enregistrent pour eux-mêmes, vous la gardez pour vous-mêmes. Depuis, j'allais dire, les temps immémoriaux, où j'amenais des séminaires d'étudiants étudiés chez le Rav Kook chaque année à Jérusalem, le Rav Kook avait l'habitude d'accueillir le séminaire des étudiants en disant d'abord Baruch Haba, et il expliquait que ça voulait dire Baruch Haba, on avait droit à une demi-heure sur Baruch Haba. Ensuite, il disait Shalom, et il expliquait Shalom, on avait droit à une heure et demie. Pour comprendre que shalom, ça n'existe qu'en hébreu. Bon, c'est encore un tout autre problème. Petite parenthèse, la manière de se saluer, ça indique toute une conception du monde différente. Les Français, quand ils se saluent, ils disent bonjour. C'est très joli, c'est très important. Et la nuit oh. Et puis les latins se disaient salve, d'où salut. Et ça veut dire porte-toi bien, Aïka Obriout. Bon, c'est très important. Mais le Rav Kook nous expliquait, mais en hébreu, on a l'essentiel, ça vient de la famille d'Abraham. Et c'est pourquoi seuls les musulmans, lorsqu'ils disent salam, et que ça veut dire vraiment la paix, c'est un problème. Et les hébreux, lorsqu'ils disent, les arabes, et les hébreux, lorsqu'ils disent shalom, voilà comment ils se saluent en se disant paix. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Et que c'est le mot d'ordre des prophètes, le mot d'ordre messianique des prophètes de la Bible. Et c'est pas sulha, armistice, état de non-belligérance. Au moment des accords de Camp David, de la paix avec l'Égypte, les Israéliens se saluaient en disant bon état de non-belligérance. Parce que la paix et l'état de non-belligérance, c'était pas exactement. Eh bien, vous avez compris le problème. On est vraiment en paix lorsqu'on va manger les uns chez les autres. Alors, beaucoup d'Israéliens vont en Égypte. aucun Égyptien ne vit en Israël. Vous avez remarqué ça? Donc, ça veut dire que c'est une paix. Je referme la parenthèse. Il avait l'habitude de s'adresser aux étudiants qui arrivaient, à demander d'où vous êtes. Un exemple parmi d'autres. Alors, moi, je suis d'Afrique du Nord. Où d'Afrique du Nord? Du Maroc. Et avant? Ben, du Maroc. Non, mais avant? Du Maroc. Non, avant? Ah, d'Espagne. Et avant? Ben, d'Espagne. Non, avant. Jusqu'à ce que l'étudiant comprenait et répondait, ah oui, de Palestine. Tu reviens chez toi, le disait leur cook. Vous avez compris le problème. Bien évidemment, lorsqu'un juif arrive en Israël, on lui demande d'où tu es. Il vous cite toute la géographie de la planète. Et il oublie, c'est l'histoire d'Abraham Orkel. Et le temps change les harmoniques d'évidence. Okay. J'ai aussi dit très souvent, lorsque j'étais juif de diaspora, je suis resté attaché à la diaspora avec un élastique qui s'appelle le cuège. Mais lorsque j'étais juif de diaspora, j'étais très gêné dans ma peau de juif, de culture française, et encore une fois, je dois vous dire, depuis que je suis israélien, j'en apprécie d'autant le caractère très important de la culture française, depuis que je sais que évidemment, c'est pas la mienne, et est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay. C'est une très grande culture, on n'a aucune idée. Et on peut comprendre pourquoi les juifs aiment la culture française. Je ne sais pas qui disait, à propos d'autre chose d'ailleurs, tout juif a deux patries, la sienne et la France. Donc ça veut dire au fond qu'il en a une seule, parce que la sienne c'est laquelle. Lorsque je discutais avec un chrétien, par exemple, alors il y avait quelque chose d'extrêmement trouble que je n'arrivais pas à diagnostiquer. Et finalement, je suis arrivé à diagnostiquer, en tout cas un peu. Il s'agissait d'un juif qui se prenait pour un français, moi, qui parlait à un français qui se prenait pour un juif, ça s'appelle chrétien. C'est-à-dire, c'est un dialogue impossible, complètement tourné à l'envers 13 fois. Alors qu'aujourd'hui, ça s'est décanté. Lorsque je parle à un ecclésiastiste chrétien français, eh bien c'est très clair. C'est un hébreu qui parle à un gaulois. C'est très clair et on se respecte. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, tout a changé de situation. Bon, le gaulois peut être auvergnat, c'est son droit. Okay. Mais il y a aussi 12 tribus en Israël. Et c'est cela qu'il faut arriver à redécouvrir. Ça veut dire que l'identité originelle de la famille d'Abraham, c'est l'identité des descendants de Héver, c'est une descendance d'une identité hébraïque, mais que le lieu de la naissance, qu'on appelle dans le pshat ici Moledet, c'était le Ur-Kasdim, la Mésopotamie du temps. Et imaginez, un juif de Syrie arriverait encore aujourd'hui à s'échapper et à arriver en Israël. On lui demanderait, quelle est ta patrie? Vous croyez qu'il répondrait la Syrie? Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, on a un premier tableau. Dans cette identité hébraïque devenue araméenne, je le réexpliquerai, à Babel, ont différents niveaux de retour. Terach est le chef de la famille. Le Midrash nous apprend que c'est la réémergence d'identité hébraïque qui a commencé chez Abraham enfant. Mais Abraham est arrivé à persuader Terach de revenir. C'est d'ailleurs un processus que nous connaissons dans nos générations contemporaines. Cet éveil de l'identité hébraïque chez les juifs commence chez les enfants. Et sont les enfants qui tirent les parents par les pieds. Vous avez remarqué ça, okay. Je crois que ça mérite d'être cité. Israël est le seul pays où ce sont les enfants qui enseignent à leurs parents la langue maternelle. Okay. Et c'est vrai. Je crois que ça n'a été jamais encore écrit ou mis en forme. L'humour des petits-enfants israéliens, avec beaucoup de patience et d'humour, reprenant leurs parents sur des fautes de grammaire. Vous voyez à peu près ce que je veux dire, c'est extraordinaire. Okay. Eh bien, je reviens au problème. Alors, nous allons voir qu'on va nous parler de trois personnages essentiels. Abraham réussit ce retour jusque dans le pays de Canaan. Haran, lui, peut pas. Il meurt au moment du... Il meurt en exil, si j'ose dire. Okay. Nous verrons Lot, accompagne Abraham, mais se sépare de lui. Et puis il y a... c'est le chant du départ. Et puis il y a Nahor, qui reste à Ur-Kasdim, et il va être le principe de la matrice qui continuera à engendrer les femmes pour marier les descendants d'Abraham jusqu'à ce que l'identité d'Israël soit constituée. Est-ce que ce schéma est suffisamment clair ou je le reprends? Je le reprends. Dommage qu'il n'y a pas de tableau. Vous voyez, une famille de... Non, peut-être pour tout à l'heure. Une famille de cette identité hébraïque araméisée en Babylonie. Vous voyez, le mixte entre l'hébreu et le babylonien fait l'araméen. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Donc. Et de la même manière que le mixte entre l'hébreu et toutes les civilisations des pays de l'Empire romain a fait les juifs de l'Empire romain. Est-ce que c'est clair? Non, non, c'est pas un mariage, c'est une identification culturelle de la relation entre l'hébreu et l'universel humain. Et c'est pourquoi l'araméen va garder une préexcellence presque égale à l'hébreu en tant que langue, presque égale dans la dignité liturgique. L'araméen, c'est pas n'importe quel yiddish, c'est pas n'importe quel ladino, c'est pas n'importe quel judéo-arabe, c'était la langue juive, entre guillemets, parlée par tous les hébreux à la fois. Nous n'avons pas de langue juive qui a été commune à tous les juifs à la fois. Okay? Mais pour ceux qui sont du secteur yiddish, pour ceux qui sont du secteur judéo-arabe, pour ceux du secteur judéo-espagnol, il y en a d'autres, il y a eu le judéo-provençal, il y a eu le judéo-français de Tandrachi, c'est incommensurable la culture juive, okay? C'est la culture universelle, okay? C'est le judéo l'universel. Ça vous donne une idée, ce qu'a pu être l'araméen. C'est la langue familiale de la famille d'Abraham. Je me souviens encore du temps où les rabbins des différents pays de l'exil s'écrivaient, pas en hébreu c'est la Shona Kodesh, s'écrivaient en araméen. D'ailleurs, mon hébreu moderne aujourd'hui est encore très araméisé parce qu'enfant, j'écrivais en araméen, enfin en hébreu rabbinique, qui est de l'araméen. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Alors, émergence du redevenir hébreu dans la famille d'Abraham à différents paliers. Okay. L'initiative, selon les récits du Midrash, vient d'Abraham enfant. Et puis, il arrive à convaincre son père. Nous allons suivre ce texte jusqu'à la Hafsaka, où le verset montre que le chef de famille, c'est bien Terach qui prend la tête du voyage de Aliya, de Ur-Kasdim, à Canaan. Et il sait où il va, avant que Dieu se révèle à Abraham pour lui dire où aller. D'ailleurs, il ne lui dit pas. Il lui dit, je t'attends là où tu arrives. Et là, vous vous rappelez de ce texte, Ken? Et alors, on voit que Terach, alors j'ai employé des termes un peu contemporains pour bien identifier. Terach décide sa alia, mais il s'arrête à la frontière. Et il meurt à Haran. Ne confondez pas Haran, qui est le nom de la ville, et Haran, le nom d'un des fils de Terach. Précisément, Haran, qui lui, le texte en parle, il dit, lui n'a pas vécu cette survie du retour. Mais il a laissé un fils, Lot, qui était du voyage du retour. Alors voyez maintenant les personnages. Ken. Haran meurt à Ur-Kasdim. Il meurt avec le désir de l'an prochain à Jérusalem, mais il meurt à Ur-Kasdim avec ce désir-là. Terach est convaincu par Abraham qu'il faut retourner, mais il s'arrête à la frontière. Lot, fils de Haran, fidèle à l'espérance non réalisée de son père mort à Ur-Kasdim, accompagne Abraham et va se séparer de lui par la suite. Okay? Et Nahor, il y avait trois fils à Terach, Ken, Nahor, Abraham, Nahor et Haran. Haran est mort. Abraham est sorti, emmenant avec lui le fils de Haran. Nahor reste à Ur-Kasdim et il va être le père des filles et des petites filles qui seront les femmes, j'allais dire les petites femmes, vous avez compris, des descendants d'Abraham pour constituer l'identité d'Israël au niveau de Jacob. Donc on nous raconte une histoire de famille des Hébreux.